montres à gousset et autres portables, il est pile 20h sur Radio G. As I woke from an unholy sleep, you were standing there. Et bienvenue, Stéphane Corbin, Quasar on the Air, l'émission sur Radio G 101.5 de Quasar, le centre lesbien, gay, bi, trans, intersexe, plus, parce qu'il y a du plus. Et du plus ce soir, nous en avons, puisque nous avons des invités en direct et au téléphone. Je vous en parle dans quelques secondes. Sur la planète, pendant ce temps-là, à Cuba, référendum et pof, droit de la famille totalement modifié avec l'ouverture du mariage aux couples de même sexe, et puis l'adoption et puis plein d'autres choses, la PMA et également la GPA, appelée tout à fait autrement là-bas. Mais si on se félicite qu'à Cuba, un référendum puisse donner tous ses droits aux LGBT, on se rappelle que Cuba, ce n'est toujours malheureusement pas une démocratie. Et puis pendant ce temps-là, en Iran, nos sœurs féministes, les femmes tout simplement, se battent pour de nouveaux droits. Et on peut effectivement les soutenir moralement et espérer que pour elles, effectivement, la vie change. Et change rapidement si la vie politique est ainsi faite en Iran. Vous voyez, sur la planète, ça bouge beaucoup. Et à Angers, on a essayé aussi, nous, samedi, de faire notre rentrée, tout à fait autre thème. On en parlera dans quelques instants. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. Nous invitons dans quelques instants l'association GLAM avec Contact 49 la semaine dernière, où nous faisions le point. Et puis cette année, cette semaine, donc c'est 15 jours tout du moins, GLAM, l'association sportive LGBT d'Angers, avec Quentin et Florian, et puis Kevin Gallet pour la fédération LGBTI+, pour parler centre LGBTI+, justement, avec le plan gouvernemental de financement. C'est de tradition, nous ouvrons l'émission avec l'agenda qui s'ouvre tout naturellement sur les permanences hebdomadaires. Chaque samedi de 17h à 19h, les permanences à Quasar, au 15 rue de Jérusalem, quartier de Croix, Branchet. Également, vous arrivez par l'avenue Pasteur, parce qu'on vous déconseille l'avenue Montaigne et le boulevard des Deux Croix. Cause, travaux du tram, et ce n'est pas fini. Les dates des permanences: les samedis 1er, 8, 15, 22 et 29 octobre. À noter sur vos tablettes, le samedi 1er octobre, c'est une nouveauté, c'est la journée, ou plus exactement l'après-midi, portes ouvertes à Quasar. Alors vous venez, vous posez vos questions, vous découvrez les adhérents, les membres de Quasar, et puis vous découvrez les activités des pôles. Alors ça peut être la Pride, le pôle droit des étrangers, comment aider les demandeuses et demandeurs d'asile, comment vous y intéresser, ou ça peut être tout simplement le pôle éducation, formation, le pôle juridique, si vous voulez faire des interventions en milieu scolaire, ce sera donc le pôle éducation formation, le pôle juridique, et puis aussi plein d'autres activités qui vous seront proposées. Vous pourrez vous intéresser, les découvrir, vous familiariser, adhérer, tout ça, portes ouvertes, visiter les locaux et venir nous rencontrer. Vous verrez, nous ne mordons pas, en tout cas quand on nous le demande gentiment, simplement. Alors dimanche 2 octobre de 14h à 17h, toujours dans les locaux de Quasar, c'est l'après-midi jeu. Vous venez avec vos jeux, vous participez à une partie qui est déjà entamée et vous découvrez tout le monde, tout ça autour d'un verre d'eau, d'un café, d'un thé et tout cela sympathiquement. Le jeudi 6 octobre de 19h à 21h, c'est le temps, le groupe de parole transparent, groupe d'échange également pour les parents et les familles des personnes transgenres, agenres et non-binaires, voire effectivement intersexe. Ça, vous connaissez, pas besoin de vous en dire plus, simplement juste la prendre la précaution de vous inscrire. Le jeudi 9, c'est un autre nouveau temps, c'est la visite du château de Waron. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de Waron ? Tout simplement parce que dans le plan d'activité de Quasar, eh bien nous avons décidé d'avoir des activités culturelles et des sorties. Et ceci en fait partie, donc vous venez. Le prix est de 10 euros voyage aller-retour. Vous venez avec votre pique-nique et puis ben, finalement, vous participerez à la visite du château. Pourquoi le château de Waron ? Parce que nous avons une guide spéciale en la personne de Sylvia. Et surtout, surtout, parce que c'est un château qui mêle à la fois le, comment dire, la partie historique avec la Renaissance jusqu'au 19e et puis surtout les expositions d'œuvres contemporaines. Le samedi 15 octobre, c'est un autre rendez-vous pour les personnes transgenres, agenres et non-binaires. Ça s'appelle Transat. C'est un groupe non mixte, exclusivement par et pour ces personnes. On vient, on pose ses questions, on discute. Enfin, on est vraiment dans une bonne ambiance et on en découvre plus, très certainement, pour les personnes concernées. Le vendredi 21 octobre, de 20h à 23h, c'est la conviviale dans les locaux de Quasar, toujours 15 rue de Jérusalem. Là, on amène de quoi partager un morceau, une entrée, un plat, froid, chaud, il y a micro-ondes et fours, on peut tout faire réchauffer et ça se passe toujours bien. On amène un petit peu à boire et on le partage avec tout le monde. Et puis enfin, le samedi 22 octobre, en plus des permanences, comme je vous l'ai dit, des premiers 8, 15, 22 et 29, également le samedi 22 octobre de 14h à 17h, notez bien sur vos tablettes, c'est l'après-midi dépistage avec l'association Aide. Qu'est-ce qu'on y fait ? Eh bien, on parle de santé sexuelle, on parle de ses pratiques si on a des questions ou des interrogations. On peut, on a le droit. Et on en parle avec des volontaires, avec des salariés de Aide qui peuvent également réaliser les fameux TROD. TROD, c'est le test rapide à orientation diagnostique pour VIH, bientôt les hépatites et IST. Donc tout ça, on en profite, Aide dans les locaux de Quasar le samedi 22 octobre. Dans quelques instants, nos premiers invités, Glam et tout de suite Angèle, ta reine. Radio G.
Si seulement elle savait comment tu la regardais, elle serait effrayée.
101.5.
Si seulement elle savait comment tu l'imaginais, elle pourrait t'abîmer. Mais laisse temps, elle pourrait vous donner une chance de vous retrouver. Pour oublier tous ces préjugés. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir, même si de reine c'est pas trop accepté. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Toi le roi tu t'en fous, c'est pas ce qui te plaît. Si seulement elle savait comment tu l'envisageais, même si t'es une fille. Si seulement elle savait comment tu pourrais l'aimer tellement plus que lui. Mais peut-être qu'un jour elle verra tout l'amour que tu pourrais lui donner. Moi je crois aux histoires qui peuvent parfois bien se terminer. Et tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir, même si de reine c'est pas trop accepté. Mais accepteras que le ciel te ment un peu plus fort. Moi je crois aux histoires auxquelles les autres ne croient pas encore. Et tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Même si de reine c'est pas trop accepté. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir.
Angèle, c'est notre reine à nous.
Radio G 101.5 FM.
Quasar Anzière déroule son programme, c'est bien naturel parce que nous sommes là juste une heure tous les 15 jours et on en profite, figurez-vous. Alors, parmi nos invités, nos premiers invités d'aujourd'hui, eh bien, il y a Florian et Quentin. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on parle bien devant le micro, Quentin, parce que t'es très loin.
Bonjour, bonjour.
Ah, ben voilà, on t'entend beaucoup mieux, tu vois, c'est mieux. Alors, vous, vous êtes de l'association GLAM, et on va vous découvrir, c'est pour ça qu'on vous a invité, puis on vous a retrouvé samedi dernier, on va en reparler tout à l'heure rapidement. Alors, GLAM, G-L-A-M, ça veut dire quoi très exactement, l'un ou l'autre? On vous écoute.
Alors, GLAM, ça veut dire gay, lesbien, association multisport.
D'accord. Et l'association, elle date d'il y a combien de temps exactement ?
Il y a 9 ans déjà et on va fêter nos 10 ans prochainement.
Prochainement. Donc là, il y aura un programme, il y aura tout et tout et tout. Exactement. Ça, vous reviendrez nous en parler, évidemment. Donc, une association gay-lesbienne, c'était le terme qu'on utilisait aujourd'hui. Alors, ça reste gay-lesbien ou c'est ouvert à d'autres réalités ?
Non, on n'est pas ouvert. Si, si, bien sûr.
C'était peur.
À l'époque, donc c'était il y a 9 ans, c'était pour lutter contre les discriminations au sport, qui étaient très présentes et malheureusement, on en a encore. Et on a gardé cette volonté de sécurité et de bienveillance au sein de GLAM. Mais bien sûr, on a changé les canaux, c'est-à-dire que maintenant, on reste très inclusif, avec toute la communauté, bien sûr, qui est la bienvenue et aussi les autres, les alliés.
On en parlera un petit peu parce qu'effectivement, sur la pratique du sport, il y a des questions qui se posent nationalement et même internationalement, mais... Pour revenir à GLAM, Florian, par exemple, toi aujourd'hui tu en es le président. Est-ce qu'on peut dire qu'au bout de la 9e année, bientôt 10 ans, vous avez passé un cap ou vous avez senti des évolutions ?
Oui, effectivement, on a passé un cap. Pour vous donner une idée, il y a à peu près 3 ans, on était à peu près une trentaine d'adhérents. Mm-hmm. Et actuellement, en fait, on est à peu près à 92 adhérents. L'année dernière, on a terminé à 92. Cette année, on arrive déjà à près de 70 adhérents à la fin de l'année, à la fin de ce mois-ci. Et on a de plus en plus... de nouvelles activités qui se développent et on sent qu'il y a vraiment un vrai engouement en fait pour ce qu'on propose. Donc là actuellement on propose en fait l'activité badminton principalement.
Oui.
Et on a développé en fait les activités de randonnée et cette année on est en train de développer l'escalade et voire même la marche nordique pour le mois prochain. Donc on essaie de développer ces nouvelles activités sportives. Donc ça continue de se développer énormément. On a aussi développé aussi des activités culturelles comme le cinéma, comme la soirée jeu qu'on fait mensuellement à chaque fois. Et puis on a nos apéros GLAM. Là actuellement on a tous les adhérents et tous ceux qui souhaitent en fait venir viennent à nos apéros GLAM actuellement et ce sont les personnes qui ne sont pas forcément adhérents mais qui souhaitent nous rencontrer peuvent venir nous voir, nous poser des questions sur l'association et donc on a aussi ces moments conviviaux qui permettent de pouvoir présenter l'association.
Et mon petit doigt m'a dit que ce soir c'est un apéro GLAM.
Exactement.
Mais vous avez un don d'ubiquité qui est terrible. Comment faites-vous ?
Oui, c'est ça.
Alors, c'est où alors ?
Alors actuellement c'est au passage. Donc c'est juste devant le restaurant Made. Donc
rue Saint-Lô, hein,
rue Saint-Lô, oui, exactement. Donc voilà, s'il y a des gens qui souhaitent nous voir, il n'y a pas de problème. On fait ça une fois tous les 2 mois et donc on sera encore de nouveau présent sur un nouvel apéro. Donc et pareil, du même principe, toutes nos activités, les personnes peuvent venir tester une activité sans forcément être adhérent. et il y a vraiment cette possibilité déjà de venir nous voir et puis dans ce cas-là après si les gens sont intéressés de venir à s'inscrire à l'association.
Alors toi Florian, tu dis on a constaté une évolution dans le nombre d'adhérents et d'adhérentes, on va y revenir dans quelques instants. Est-ce que vous avez une lecture de cet intérêt grandissant? Est-ce qu'il y a eu des caps, des dates précises? Ma question derrière, en bruit de fond, c'est est-ce que maintenant que les droits sont plus ouverts, les gens sont plus, les LGBTI+, sont plus enclins à se détendre, faire du sport et à être plus tranquilles et cool dans leur vie? C'est ça votre explication ou c'en est une autre?
Alors, je pense qu'il y a vraiment la question de... Il y a eu des changements qui ont été faits il y a 3 ans. On a eu un président qui était présent avant, qui s'appelait Nicolas Chauvet. Et avec le bureau qu'il y avait précédemment, il a essayé de reprendre en fait le flambeau qui avait été laissé par Audrey, la responsable qui avait créé l'association. Et le flambeau a vraiment été bien repris de sa part, parce qu'avec tout le nouveau bureau, en fait, il y a eu vraiment cette volonté de vouloir créer de nouvelles activités. Et je pense que ça a été vraiment le fait d'aller voir les gens, d'aller vraiment que les gens se sentent vraiment accueillis. Et je pense que c'est ça qui a fait notre force, c'est l'accueil des personnes qui venaient nous voir. Et je pense que ça a été la plus grande de nos forces.
Donc cette évolution-là, ce constat, je posais la question en mettant au féminin, en proportion garçons, filles ou personnes qui ne se genrent pas, mais peu importe, vous avez aussi des chiffres ou au moins une évolution ou pas?
Alors,
effectivement, si on parle de genre, en sachant qu'on n'aime pas forcément parler de genre chez Glam, vu qu'on est dans l'inclusivité, on serait à peu près à 68% d'hommes et 32% de femmes l'année dernière.
D'accord. Mais l'inclusivité accueille aussi ce qui se nomme et ce qui se genre dans la mesure où effectivement la pratique est concernée. Alors comment est-ce que ça se passe? Est-ce que vous avez par exemple des personnes trans qui viennent essayer et qui vont aller dans une équipe, qui vont s'intégrer, ça ne pose aucune difficulté, ou vous avez eu tout un débat, un échange entre vous pour justement appréhender cette question-là?
Je pense que c'est des questions déjà qui se posent en interne, c'est-à-dire que nous, on se forme mutuellement au sein du bureau, on est 11 pour le moment dans le bureau, pour savoir comment accueillir de façon bienveillante les transgenres et comment les accueillir par exemple dans les vestiaires, sous les douches, comment les personnes se sentent bien à l'aise aussi en ce sens. Et après, on est vraiment une équipe qui est dans l'échange et dans l'écoute, c'est-à-dire qu'on va être à la rencontre de ces personnes-là et de savoir comment elles envisagent aussi l'avenir au sein de GLAM.
D'accord. Donc ça, c'est vraiment du questionnement, de la réflexion en cours, et c'est bien aussi de pouvoir l'accueillir. Alors, vous parliez de pratique. Tu parlais, Florian, badminton et puis d'autres activités. Historiquement, badminton est depuis le départ. Est-ce qu'il y a eu, je sais pas, des temps piscine? Comment est-ce que vous gérez ça?
Alors, il y a eu en fait à un moment, c'était en 2014, on a eu une activité qui avait été développée par le bureau d'Audrey, la créatrice de l'association. C'était l'activité handball et basket. À l'époque, ça n'a pas pu se développer. Donc mais il y avait vraiment une réelle intention en fait du premier bureau pour essayer de développer davantage d'activités sportives. Donc maintenant, avec le nombre d'adhérents qu'on a, on peut davantage développer de nouvelles activités, parce que il y a de plus en plus de nouvelles demandes qui sont faites par les personnes adhérentes à l'association, et dont par exemple la randonnée, où actuellement on a une quinzaine de personnes qui mensuellement viennent à nos randonnées. Et j'y pense par la même occasion, on a aussi l'escapade vélo qu'on est en train d'aussi développer. Donc pareil, on espère voir aussi de nouveaux adhérents. Donc on essaye aussi de toucher de nouveaux publics à chaque fois avec des nouvelles activités. Et c'est ça qui est intéressant, c'est vraiment de pouvoir développer vraiment une offre multisport.
Donc ce que ça veut dire aussi, c'est que si de nouveaux adhérents ou adhérentes viennent vous rencontrer et ont une envie, s'il y a un groupe de personnes suffisamment important, c'est une activité qui peut naître.
Exactement. Je vous prends l'exemple de la marche nordique. Oui. La marche nordique, on a une personne qui était adhérente à l'association, qui a discuté avec des personnes de la randonnée, et en fait, elle a trouvé des membres qui seraient intéressés pour faire de la marche nordique. Donc nous, on va essayer de voir pour pouvoir essayer de louer en fait du matériel pour permettre finalement à n'importe quel débutant de pouvoir tester cette activité. Et donc du même principe, on est toujours en fait ouvert à toutes les propositions, que ce soit des adhérents ou même des nouveaux adhérents en fait pour développer de nouvelles activités sportive.
Dans ce Quasar Anzière, 20h20 sur Radio G, nous recevons GLAM, l'association gay, lesbienne, bi-trans aussi certainement, sportive d'Angers, avec Florian et Quentin qui sont nos invités encore pour quelques minutes. Finalement, dans les activités qui sont les vôtres, les pratiques sportives, celles que tu as décrites il y a quelques instants, est-ce qu'il y a un effet mode? Est-ce qu'il y a une volonté propre au public LGBT ou finalement c'est une demande quasiment unanime? Ma question, c'est par exemple, les crevettes pailletées, film très crypto-gay, gay si on le veut, est-ce que ça a une influence? C'est-à-dire, est-ce que les gens vous contactent et vous disent, bah moi voilà, j'ai vu ce film et la piscine, là je voudrais monter par exemple un groupe comme les paillettes, les crevettes pailletées?
Je pense que les films ont forcément un impact dans l'intérêt sportif ou dans l'intérêt culturel des personnes. Nous, on le ressent effectivement au sein de l'association. Mais par exemple, le badminton, c'est une activité qui depuis 9 ans existe dû à la création du coup de Audrey et Cédric de GLAM, mais et ça c'est présent presque dans chaque ville, c'est-à-dire qu'on fait aussi des rencontres lors de tournois sur des associations du coup inclusives où on retrouve des associations de badminton qui sont présentes dans presque toutes les villes, même des petites villes comme Tours.
Et ma question justement, dans vos activités, vous êtes organisateur de rencontres nationales sportives, et ça s'appelle comment très exactement?
C'est-à-dire
les tournois que vous organisez?
Alors on a un tournoi en fait qu'on fait tous les mois de février, oui, chaque année. Et donc là ça va être ça fait déjà plusieurs fois que le tournoi est fait, donc alors je ne sais plus de mémoire, je pense qu'on doit être rendu à la 8e édition de mémoire, et à chaque fois on invite tout le Grand Ouest ainsi que les associations de Paris. Donc on accueille en fait de Nantes, de Niort, de Tours, de Rennes, et on fait donc ça sur le vendredi soir avec un apéro, le tournoi en fait en double durant la journée, et puis le soir une soirée ainsi que le dimanche matin un brunch. Donc c'est vraiment tout le week-end, donc c'est vraiment un événement important pour l'association.
Est-ce que vous savez combien il existe en France, Los Valens à Montpellier, les équipes de rugby à Lyon et ainsi de suite? Est-ce que vous avez dénombré le nombre d'assos sportives LGBT?
Alors pas exactement.
Question piège. Hein, oui. Ne t'inquiète pas, si t'as pas la réponse,
Je pense qu'on est au minimum à 40, parce qu'il y en a, quand même énormément dans chaque ville, et dans chaque ville, c'est soit des associations comme GLAM Multisport, mais il y a aussi des associations qui font un sport en particulier.
Oui, qui c'est sont ça. Qui sont une association, mais une association d'une pratique sportive vraiment déterminée. Et donc, vous avez eu un point incroyable en 2020, juste avant le premier confinement. Ça s'est pas trop mal passé. Au contraire, j'ai la mémoire que ça s'était super bien déroulé. Après, bon, premier confinement, tout le monde l'a vécu. Mais réellement, là, la date de ce tournoi, pour février déjà, vous l'avez?
Alors pour le moment en fait on n'a pas la date exactement. D'accord. On est en fait en négociation parce qu'on souhaiterait en fait s'agrandir. Là actuellement on avait toujours la même salle et on est en train d'essayer de voir pour d'autres communes en fait de l'agglomération pour essayer d'avoir un gymnase qui permet d'accueillir plus de monde. Actuellement on peut accueillir à peu près 85 personnes et on aimerait viser à peu près 120 personnes si possible.
Oui, parce que ça s'étend.
Exactement.
Vous étiez à quelle salle?
On était à la salle Jean Lehaye actuellement et on est à 7 terrains, donc on aimerait pouvoir passer à davantage, et pour la même chose pour la soirée, parce que la soirée on est limité aux alentours de 100 personnes, on aimerait pouvoir passer à 150 parce qu'à chaque fois on est obligé de fermer les inscriptions avant la date. L'année dernière, pour vous donner une idée, on a dû terminer deux semaines avant les inscriptions parce qu'on était saturé, on pouvait pas accueillir plus.
Alors, dans la dernière minute qui nous reste, est-ce qu'on peut faire le point sur les dates et les choses vraiment importantes qui vont arriver et les points que vous voulez mettre en exergue?
Alors, sur toutes les dates, ça va être assez simple, c'est-à-dire que vous pouvez les retrouver sur le Instagram ou sur le Facebook de l'association. Donc, sur le Facebook, ce sera Glam Angers, et sur le Instagram, c'est aussi Glam Angers, donc G-L-A-M et Angers comme la ville avec un S.
Le site, l'adresse?
Même principe, Glam Angers.
Point com peut-être, pour rester inclusif.
J'ai un doute, mais si on tape Glam Angers sur Google,
oui,
ou sur une plateforme, voilà, on retrouve facilement
le site.
Donc voilà, et on vous invite forcément, c'est pas de la compétition, c'est de la convivialité. Il n'y a pas forcément de niveau à voir, c'est vraiment le but d'essayer des sports et d'avoir des lieux d'épanouissement. Et on est aussi sur un terrain intergénérationnel parce qu'on touche des personnes de 19 à 65 ans actuellement.
D'accord. Dernière question, la plus embarrassante, ça drague à glam ou pas finalement?
Il y a ça... déjà eu des couples effectivement qui sont créés grâce à glam. Après, vu qu'on est un lieu d'échange, forcément il peut y avoir des choses, mais ce sera pas forcément à glam,
oui.
Ce sera plus en extérieur.
Oui, on n'est pas des associations de rencontres, mais ça peut se passer.
Mais pas dans les vestiaires, hein,
voilà.
On soit d'accord.
Le fantasme de dingue. Allez, très bonne soirée. Merci
beaucoup,
Quentin. Merci
beaucoup,
Florian,
hein,
d'être venu jusqu'à nous. Quasar Anzière se poursuit.
What's the sense in sharing this one and only life? Ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled with tears. Love only breaks up to start over again. You'll get the babies, but you won't have your man. Times a day, it's easier said than done.
Ah, c'est sûr et certain que les cœurs jeunes et vaillants bondissent et virevoltent. Candice Tanton, les époques disco avec ce titre. Quasar Anzière, Radio G 101.5, l'émission du centre lesbien, gay, bi, trans, intersexe plus danger. Et parce que justement nous parlons de centre LGBTI, eh bien nous allons rejoindre notre invité tout de suite. C'est Kevin, Kevin Gallet. Bonsoir Kevin.
Bonsoir.
Alors Kevin, on t'a invité pour pouvoir échanger avec toi au nom de la Fédération LGBTI+, dont tu es le secrétaire, pour parler de ce plan gouvernemental d'aide aux associations LGBTI+, mais surtout au centre. Alors est-ce que tu peux en deux mots nous donner une idée du plan annoncé par Elisabeth Borne le 4 août dernier ?
Ben, c'est un plan qui a été présenté, formulé à la presse en réponse à la crise Cailleux, hein, un ministre qui avait tenu des propos homophobes et qui consiste en un fonds exceptionnel, donc ça n'arrive qu'une fois, de 3 millions d'euros, dont une moitié dédiée aux nouveaux centres, à de nouveaux centres LGBT, et l'autre moitié qui consiste en un redéploiement de fonds dans le cadre des projets de la DILCRA.
D'accord. Donc là, on parle pour la DILCRA d'1,5 million et 1,5 million aussi pour la création de structures dites centres LGBTI. C'est bien ça?
C'est ça.
D'accord. Donc, différentes étapes, l'annonce, comme tu le disais, dans le cadre du Sauf qui peut Cailleux. Et puis, aujourd'hui, les associations sont contactées par la DILCRA. Alors, est-ce qu'on peut rappeler, tu te rappelles de la définition exacte de l'acronyme DILCRA ?
Alors, la DILCRA, donc, c'est avec un H maintenant, c'est la Délégation interministérielle de lutte contre l'antisémitisme, le racisme et les haines anti-LGBT, qui est un organe interministériel destiné à piloter l'action de l'État, copiloter l'action de l'État en matière de lutte contre les discriminations.
D'accord. Et à sa tête, la préfète Sophie Elizéon, qu'on a déjà rencontrée, nous, Fédération, notamment lors des dernières rencontres qui avaient lieu en juillet dernier au centre LGBTI+ de Paris. Nous l'avons rencontrée pendant à peu près une heure et nous avons pu échanger. Donc, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on nous annonce que, bien que ce ne soit pas l'information que l'Élysée nous ait donnée en première intention, que le 1,5 million serait finalement une enveloppe destinée à financer le fonctionnement des centres LGBTI+. Est-ce que tu peux nous préciser, toi, du point de vue de la Fédération, de quoi il est question quand on parle de financement, de fonctionnement ?
Alors, le financement de fonctionnement, c'est essentiellement deux choses, hein, au-delà des petites dépenses, entre guillemets, d'assurance et d'hébergement à Internet. C'est essentiellement les salariés, et ensuite les loyers des locaux.
Donc ces éléments-là sont des charges très importantes. Alors on peut dire par exemple que pour Paris, bah, c'est 90 000 euros à l'année, ce qui est quand même énorme. Et puis pour d'autres associations, d'autres centres, dont Quasar, bah, ce sont des sommes parfois bien moins élevées, mais qui peuvent rester une lourde tâche. Et alors pourquoi est-ce que nous, les associations, en règle générale, les centres, on insiste particulièrement entre le fonctionnement et les appels à projets de la DILCRA ?
Bah, le fonctionnement, ça permet d'alimenter tout ce qui permet de faire tous les autres projets. C'est-à-dire que le fonctionnement, c'est donc les loyers, et sans loyer, sans local, on peut pas du tout fonctionner. Aujourd'hui, le fonctionnement des centres représente des sommes très importantes. Si elles ne sont pas prises en charge par l'État et par les collectivités, les centres peuvent couler. Et puis par ailleurs, l'autre élément important pour ce qui concerne les salariés, c'est qu'aujourd'hui, quand on répond à un appel à projet sur un projet en particulier, ça suppose d'avoir des bénévoles. Or, les bénévoles, ils sont comme tout le monde, ils ont un travail, ils ont en tout cas des activités, et ils peuvent pas être aussi disponibles que des salariés. Les centres ont besoin de salariés pour pouvoir mener correctement des projets.
Alors, dans un monde idéal, on pourrait dire que les bénévoles ont peut-être aussi besoin de salariés pour assurer une partie administrative qui les dégage, eux, pour ou elles, pour pouvoir effectivement être dans l'action. Parce que ce qu'on oppose dans le fonctionnement et l'appel à projet, c'est que l'énergie mise par les bénévoles pour créer ces dossiers, pour les rendre cohérents, c'est du temps en moins sur l'action. Et pendant ce temps-là, c'est du temps en moins aussi pour assurer la survie de la structure en elle-même, au-delà de tous les plans d'action qu'elle peut avoir. Et c'est là où c'est vraiment difficile, que ce soit à Contact, à Quasar, que ce soit à Equinox, que ce soit à Deos, au Basco, à Iskis, à Rennes, que ce soit à Lille, à Strasbourg ou autre. Finalement, c'est toujours la même difficulté.
Toujours pareil. C'est toujours très difficile. Et dans tous les centres LGBT de France aujourd'hui, et même au-delà, dans toutes les assos LGBT, il y a une vraie difficulté à combiner le fait qu'on mène des missions d'intérêt général qui requièrent beaucoup de travail, et d'autre part, le fait que ces missions sont effectuées par des bénévoles, quoi.
Alors, avant d'entrer sur les préconisations vraiment de la fédération LGBTI+, peut-être qu'on pourrait s'attarder un tout petit peu sur la recherche que nous avons faite et le comparatif avec deux pays comme l'Espagne, où effectivement le soutien l'organisation administrative et territoriale, certes en Espagne, est différente de la centralisation ou une tentative de décentralisation française. Mais il n'empêche qu'il y a un soutien très fort des régions sur le plan de lutte contre les discriminations auprès des associations. Et notre comparaison, c'était aussi en Belgique. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi ?
Alors, la Wallonie a mis en place un plan à partir de 2015 qui consiste à reconnaître 7 maisons arc-en-ciel dans toute la Wallonie, qui est la partie francophone de la Belgique, et à la doter d'une fédération reconnue, et donc à donner à ces maisons arc-en-ciel des moyens conséquents de personnel et de locaux pour pouvoir fonctionner. Mais je dirais, ça va au-delà de ça, puisque dans le plan Wallon de 2015, ils ont carrément reconnu les personnes LGBT comme des sujets du droit de l'action sociale en Wallonie, au même titre que, par exemple, les personnes handicapées, les personnes âgées, ce qui donne vraiment un statut à ces maisons arc-en-ciel qui sont en charge de contribuer à l'émancipation et à l'épanouissement et au bien-être des personnes LGBT en Wallonie.
Et est-ce que c'est le cas en France ?
En France, pas du tout. En France, dans le code de l'action sociale, on cible un certain nombre de publics, les familles, les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes migrantes, mais les personnes LGBT ne sont pas considérées en France comme des sujets de l'action sociale.
Et donc, ça voudrait dire que si nous suggérions au gouvernement une activité semblable, une application semblable, il y aurait certainement aussi à réformer le droit et l'écriture des textes pour pouvoir être inclus dedans. C'est ce qu'on dit, en fait.
Exactement. Si on veut mettre le plan Wallon en place en France, ou un équivalent, il faudrait une réforme, y compris sur le plan législatif, du Code de l'action sociale et des familles, qui inclurait les personnes LGBT.
Et ce qui amènerait, effectivement, finalement, de quoi on parle ? On parle d'un formatage des associations où on leur laisse une voie de liberté, finalement, et d'organisation, d'après toi ?
Deuxième option, c'est-à-dire que, par exemple, dans le code de l'action sociale et des familles, les familles sont reconnues comme sujet de l'action sociale. Et ça n'empêche pas des associations comme les UFAL, les unions des familles laïques, ou les associations familiales d'avoir leur autonomie et leur indépendance. Mais ça leur permet d'avoir une reconnaissance institutionnelle qui justifie le fait d'avoir des fonds.
Et justement, si on parle des fonds, est-ce que le fait d'être financé, en tout cas aujourd'hui, sans cette réforme en France, il n'y a pas un risque que ce soit finalement un financement qui politiquement signifie aussi pas trop de vagues et tout va bien, Madame la Marquise?
Tout à fait. Dans une situation où c'est le pouvoir exécutif, façon dont on déploie ces fonds, eh ben, c'est le pouvoir exécutif qui décide comment ils sont faits. Alors que si on a des critères légaux qui permettent de déterminer les conditions d'octroi de ces subventions, dans un cadre légal, hein, eh ben, à ce moment-là, on a certaines garanties d'indépendance.
Et c'est ça qui va être aussi au cœur du problème et de la discussion avec la DILCRA et le gouvernement. C'est véritablement s'il y a une volonté de leur part, ça va être aussi de questionner le comment, c'est-à-dire sur quel mode, sur quelle façon d'agir et surtout avec quels critères, je pense.
C'est ça, exactement.
Donc ça veut dire que les critères, il va falloir les étudier à la loupe et interroger effectivement la DILCRA sur ça. Donc on est en discussion, hein, on ne le cache pas, et c'est véritablement ça qui est un enjeu extrêmement important. Qu'est-ce qui fait que finalement la DILCRA, le gouvernement à travers la DILCRA s'intéresse au centre LGBTI+, à ton avis, plutôt que de dire les associations en priorité?
Ben, je pense que dans la stratégie du gouvernement, il y a quand même une conscience quelque part qu'il y a un problème de structuration des politiques LGBT en France. C'est-à-dire qu'ils ont conscience que les centres LGBT dans les territoires sont des lieux identifiables, efficaces, qui permettent vraiment de travailler efficacement, hein, voilà. Mais sans réelle connaissance du sujet. C'est quelque chose qu'on constate, hélas, depuis longtemps, c'est que on a des effets d'annonce, des gouvernements qui font des propositions, mais qui ont vraiment une réelle déconnexion du terrain.
Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, au-delà de ces constats, qu'est-ce que la fédération va suggérer en termes de réalité par rapport à ce plan financier de 3 millions, donc 1,5 million, on le rappelle, pour les financements de fonctionnement? Ça veut dire qu'on lance des projets de salariat, qu'on lance des budgets de fonctionnement, et puis l'année N+1, on fait quoi? On licencie tout le monde et on ferme boutique? Comment on fait?
Voilà, donc ça c'est effectivement tel qu'on lit le projet tel qu'il est présenté, c'est un fonds exceptionnel. Nous, ce qu'on doit proposer, c'est un financement qui soit pérenne dans un cadre qui permette aux associations de se stabiliser, de se développer de la même façon que par exemple le planning familial ou les associations familiales sur le long terme. Hein? En Wallonie, pour donner un ordre de grandeur, c'était à peu près 50 000 euros par maison arc-en-ciel. Hein? Sur les 7 maisons arc-en-ciel, c'est un budget un peu plus de 370 000 euros. Si on voulait appliquer le même plan en France avec la même ambition...
Avec le même ratio, tu veux dire, hein, c'est ça?
Avec le même ratio démographique, hein, de population, il faudrait que le gouvernement mette au budget de l'État un peu plus de 7 millions d'euros par an.
Oui, donc là,
tous les ans.
On respirerait différemment. Hein.
Ah bah, c'est clair. Ça permettrait de financer à ces niveaux-là 146 centres LGBT. Donc on peut, je crois, hein, j'avais fait la division. Donc on peut voir large.
Et puis surtout, il y a des villes où il y a des besoins plus importants. On imagine bien qu'à Lyon, ça ne va pas être le même financement qu'à Angers. Et ça, c'est pas nous dépouiller, mais c'est évident qu'il y a un besoin parce que le bassin de population est plus important, ou à Nancy, moins important qu'à Marseille, évidemment, pour les raisons qu'on imagine. Mais il n'empêche que selon les réalités et les activités, on pourra effectivement discuter de ça. Ce que je te propose, Kevin, c'est qu'on fasse juste une toute petite pause et puis on se retrouve tout de suite après Pierre de Maher, et nous reprenons cette discussion pour parler justement des activités et des missions des centres LGBTI+. Quasar en Dier, Radio G 101.5. Vous allez bien? Nous, on est bien calés avec vous, hein? Pierre de Mer.
Je l'aime mort, et dans mon film, on est pour regardez-nous jouer Roméo et se maudire en silence. Regarde autour de moi, la foule qui pue la haine, elle veut ce qu'elle n'a pas. Dis-lui combien on s'aime, encore, encore plus que la veille. À deux, la vie est telle que dans tes rêves, les plus fous. À deux, la vie est belle, il ne parle que de nous. Raconte, raconte.
Amour, Pierre de Maer, le petit Belge, androgyne et rigolo comme tout pour son Roméo.
Radio G. 101.5 FM.
Vous respirez, nous aussi, et nous sommes toujours en compagnie de Kevin Gallet, qui est le secrétaire de la Fédération LGBTI+, de la Fédération des centres LGBT+, et des associations également qui rejoignent la Fédération. On va en parler dans quelques instants. Nous avons échangé, Kevin, en parlant des budgets et de la corrélation qu'on pourrait faire entre un budget français et la comparaison de la réalité en Wallonie. Qu'est-ce qu'on peut dire sur d'autres structures qui sont financées en France, des sommes qu'ils reçoivent, alors que nous, on est juste à 1,5 million de prévus pour One Shot?
Ben, on a trouvé l'exemple qui était quand même assez parlant. C'est du fait qu'entre 2020 et 2021, la Fédération nationale des chasseurs a bénéficié de 11,3 millions d'euros de subventions et concours publics. Et que le plan là que nous on propose pour les centres LGBT, en prenant l'exemple de la Wallonie, c'est de l'ordre de 7,3 millions d'euros. Donc techniquement, budgétairement parlant, c'est dans les cordes du gouvernement de nous aider.
D'accord, sauf que évidemment, on sait tous que le fusil a un point plus important politiquement et dans les campagnes et campagnes électorales aussi, j'entends bien. Donc la fédération, deux mots quand même pour dire qu'elle a eu différents noms, l'intercentre, enfin voilà, aujourd'hui c'est la fédération LGBTI+, ça représente combien de structures en gros, et combien est-ce qu'en France on estime pouvoir dire qu'il y a d'associations qui entrent dans les clous d'être un centre LGBTI, en tout cas qui en ont les missions?
Alors aujourd'hui, bon, la fédération regroupe 14 centres LGBT ou associations qu'on assimile à des centres LGBT. Des centres LGBT à proprement parler, il y en a une trentaine en France, une trentaine de centres et d'antennes de centres LGBT qui sont surtout répartis dans l'ouest de la France, qui existent aussi dans les grandes villes de tous les territoires, à l'exception de la région Bourgogne-Franche-Comté, qui n'en compte plus depuis 2018.
Voilà, c'est Dijon qui est mort de sa belle vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme à Dijon, il y a des centres qui disparaissent régulièrement?
Tous les 3 ans, on a un grand centre LGBT, plus ou moins un grand centre LGBT qui meurt. Faute de moyens, faute de bénévoles ou par épuisement des bénévoles.
D'accord. Alors, être un centre LGBTI+, Quasar pourrait en parler, mais l'idée quand même, c'est de synthétiser. Et comme tu es le secrétaire de la Fédération LGBT, qu'est-ce que la Fédération a reconnu comme mission et au nombre de combien, même si on précise que toutes n'ont pas, enfin, les structures, les assos, n'ont pas l'obligation de toutes avoir ces missions, mais enfin d'en avoir quand même une ou deux principales. Ce serait quoi les principales missions?
Alors, les principales missions, d'abord, c'est l'accueil inconditionnel de toute personne LGBT ou autre d'ailleurs qui a un besoin d'être écoutée. C'est l'accompagnement des victimes d'homophobie et de transphobie, alors à la fois sur le plan judiciaire, administratif, moral, humain, et puis l'accompagnement spécifique, alors qui exige plus de temps, en particulier pour les personnes en situation de demande d'asile. Ça, c'est un gros sujet dans beaucoup de centres.
D'accord. Et ça, c'est la nouveauté de ces quelques dernières années. C'était effectivement quelque chose d'absolument écrasant. Oui.
Tout à fait. Les centres LGBT sont des structures qui sont politiques. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'elles ont un plaidoyer, qu'elles ont des revendications qui sont liées à une expertise de terrain.
Et par politique? On est bien d'accord qu'on ne parle pas de parti de droite, de gauche, de en haut, en bas. On parle d'engagement de la vie au quotidien des personnes, c'est-à-dire dans la République. Ce sont des citoyens, des citoyennes qui se regroupent et qui parlent de leurs conditions. Et même, disons-le, si souvent les revendications que nous portons ont été beaucoup plus portées par la gauche, c'est pas systématiquement une question de gauche majoritaire. Surtout pas.
Clairement pas. On entend par politique citoyen, dans le sens où on propose des réformes, des transformations du droit et de la réglementation qui ont des conséquences concrètes sur les publics qu'on accompagne
et qu'on suit. Et qui défrisent beaucoup les conservateurs et homophobes et transphobes notoires, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça qui est politique aussi, et c'est ça qui les dérange. Bref, donc parmi les grandes missions, oui.
Autre mission, c'est la mission de transformation des mentalités, donc l'éducation populaire et tout ce qui relève de la formation, sensibilisation, y compris de certains professionnels.
Alors, lobby ou pas? Lobby ou pas?
Ben en fait non, parce que déjà un lobby, les lobbies ont beaucoup plus d'argent que nous, et surtout les lobbies défendent des intérêts privés, alors que nous défendons une conception de l'intérêt général qui est au service non seulement, on va dire, des personnes LGBT en particulier, mais de toute la population.
C'est bien le cas. Oui.
C'est clair.
Parmi les autres missions,
il en reste deux qu'on a pu lister. D'abord l'action culturel, tout ce qui est culturel, toute culture et convivialité, donc les bibliothèques communautaires, les festivals de cinéma, les événements autour d'invitations d'auteurs de littérature, par exemple. Voilà, ça c'est quelque chose qui est animé par les centres. Et enfin, un point qui est crucial pour les centres LGBT depuis longtemps, c'est la promotion de la santé globale. Il y a à la fois de la santé sexuelle, de la santé mentale et de la santé au sens de bien-être pris au sens large.
D'accord. Et donc là, effectivement, il y a du boulot. Alors, l'organisation des associations, c'est soit de créer ce qu'on appelle des commissions, des groupes, des pôles, enfin peu importe le nom, on voit bien le sens donné. Et là, il y a un certain nombre de bénévoles qui peuvent être secondés selon les villes et les associations par des professionnels et qui s'engagent, qui se forment et qui peuvent agir. Alors, en l'occurrence, là, c'était le modèle de la santé sexuelle. Donc, on parle quoi en santé sexuelle en règle générale?
J'ai pas compris ta question.
La santé sexuelle concerne quel domaine très précisément et plus particulièrement en domaine de la santé et les différentes épidémies historiques, c'est quoi finalement?
Ben, c'est tout ce qui concerne l'information et la prévention des publics, en particulier des publics cibles, hein, des politiques de santé. Et aussi la contribution à des actions par exemple de dépistage, hein. Il y a des centres qui sont formés aux tests rapides d'orientation diagnostique.
Les fameux TROD.
C'est ça.
D'accord.
Et ça concerne toutes les IST, et puis aussi quand on parle de santé sexuelle, c'est pas que les infections sexuelles, c'est aussi le bien-être dans sa sexualité. Ça c'est très important, apprendre à appréhender le plaisir, à appréhender son corps, en refusant tous les jugements de valeur et les préjugés, les stéréotypes sur la question.
On note d'ailleurs que au ministère de la santé sexuelle est devenue un sujet central en tout domaine, mais aussi en direction des publics LGBTI. Hein. Plus. Donc c'est tout à fait notable et remarqué. Sur la dernière minute qui nous reste, Kevin, est-ce qu'on peut dire que dans les préconisations de la fédération, il y a un développement aussi de la fédération à prévoir grâce à ce budget de fonctionnement qui sera pérenne ou pas? Nous verrons, nous discuterons. La fédération, elle, pour elle, quoi de neuf?
C'est clair qu'il faut y réfléchir, parce que si la fédération ne rassemble pas tous les centres LGBT, on a un rôle important pour les centres LGBT, en particulier ceux qui sont les moins développés, pour mutualiser un certain nombre de compétences, pour se rencontrer régulièrement. Et les associations qui adhèrent à la fédération sont toujours très ravies de pouvoir échanger et sortir de leurs problèmes locaux pour se rendre compte qu'en fait, les problématiques, elles sont pas locales, elles sont nationales. Et donc, le rôle d'une fédération pour un réseau de centres LGBT, parce que les centres fonctionnent en réseau, est fondamental.
Et c'est bien ça qui nous anime. Un grand merci, Kevin, d'avoir pris le temps d'être avec nous en direct depuis Nancy pour ce point sur la fédération LGBTI. On se dit à très très vite pour d'autres activités de visio et autre chose, sans problème.
Sans problème.
Merci, très belle soirée à toi et à toute l'équipe.
À vous aussi.
Ciao.
À bientôt, salut.
Radio G. 101.5 FM.
Dernière page, c'est traditionnel, on revient sur l'agenda, on voit ce qu'il y a à mettre en exergue. Alors on vous dit une chose très importante, c'est la journée portes ouvertes demain à Quasar, après-demain, samedi 1er octobre. Vous voyez comme quoi je suis pressé de vous retrouver. De 14h à 17h, l'après-midi portes ouvertes, où vous pourrez venir découvrir les adhérents, adhérentes, faire leur connaissance et puis poser toutes les questions. Découvrir le pôle juridique, le pôle éducation-formation, le pôle droit des étrangers, le pôle Pride, parler justement de santé sexuelle aussi, de voir comment on peut vous aider, et puis devenir bénévole, devenir adhérent ou adhérente, et puis voir comment tout ça peut se passer, ou alors simplement venir nous voir et puis attendre un peu, puis vous verrez comment vous pourrez vous engager avec nous. Le dimanche 2 octobre, 14h-17h à Quasar, toujours 15 rue de Jérusalem, l'après-midi jeu, on vient s'amuser, se détendre, une partie de cartes, une partie d'autres jeux, on amène son jeu éventuellement si on en a un nouveau. Le jeudi 6 octobre, de 19h à 21h, c'est le rendez-vous transparent, le groupe d'échange et de parole des parents, conjoints, de personnes transgenres à genre non-binaire. Et on précise toujours que les personnes concernées ne sont pas présentes, les personnes de la famille transgenre à genre et non-binaire ou intersexe ne sont pas présentes, mais il y a d'autres personnes trans ou non-binaires qui sont là pour répondre à vos questions. Pourquoi ? Bah, tout simplement parce que on peut faire des bêtises, dire des mots qu'on ne dirait pas devant les autres et les membres de sa famille, et finalement ça détend l'atmosphère. Et puis autre date importante, par exemple la conviviale le 21 octobre, la sortie du château de Waron, on s'inscrit au préalable le 9 octobre, et puis le dépistage le samedi 22 octobre. Bon ben voilà, faut se dire au revoir. Ça passe très très vite, mais beaucoup trop vite. On se retrouve dans 15 jours. On aura passé les journées portes ouvertes. Et puis lundi également, lundi soir, eh bien ce sera la première réunion de préparation de la Pride 2023. Voyez comme quoi on a vraiment un agenda très très rempli. On vous souhaite une bonne soirée, la bise et à dans 15 jours. Ciao.
Radio G. 101.5 FM. Yes.